Et donc, voilà, quand on est arrivé ici, on a bien trouvé un pays, je dis, fracassé psychologiquement. On entendait des bruits, on entendait des rumeurs, on entendait qu'il y avait eu des morts, de nombreux morts. Alors que.
Comment vous trouvez la Guadeloupe? Quel est votre sentiment quand vous revenez en Guadeloupe après ces événements-là?
La Guadeloupe était un peu dans la sidération. Enfin, voilà, dans la sidération.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Ce qui était proche, hein, je veux dire, des événements, n'avait pas le même regard que ceux qui se trouvaient à des habitants en Guyane. La situation, parce que dans la proximité des événements, j'avais des amis, j'avais des camarades, j'avais des parents impliqués là-dedans, et forcément, on vivait ça de beaucoup plus près. Alors, moi là-dedans, j'ai des parents qui ont été emprisonnés, j'ai des amis qui étaient emprisonnés, j'ai des voisins qui étaient emprisonnés, arrêtés devant nous presque. Et donc, voilà, tout ça un peu mélangé fait que. On s'est senti fortement impliqué dans cette opération-là. Et nous avons, dans le cadre des opérations qui ont suivi, le soldat qui était surmonté autour des prisonniers politiques, on s'est senti le devoir d'y être. Et personnellement, j'ai pris toute ma part dans cette opération.
Alors, tu reviens en juillet, et en juillet, il y avait encore des arrestations.
On a fait déjà arrêter du monde.
Oui.
Mais il y avait des gens qui étaient dans la proximité du théâtre des opérations. Et qui était plus ou moins dans la clandestinité, qui était plus ou moins. Et on a arrêté du monde. Je sais que mon beau-frère, à l'époque, a été arrêté un peu après le mois de juillet, ou juste avant le mois de juillet, Georges Rupert, etc. Il faut dire que Trois-Rivières aussi était connue comme étant une zone de militants, notamment du Gong. Hein. Parce que Trois-Rivières avait quelques fortes personnalités, là. Vous savez, moi j'ai connu des gars comme Carloman Bassette, ce sont des cours militants, c'est mon cousin. Claude Romual, des frères Maillor, enfin, je ne sais pas si on peut les citer, si on a le droit de citer, mais enfin, la zone de Rivière, c'était un lieu de la lutte et pour l'indépendance nationale de Rome. Et puis après, il y a eu le déroulé des procès. Moi, je me souviens que nous avions. On était dans une ambiance, de mobilisation générale, où on tenait des meetings partout, tous les soirs.
Alors,
c'était le comité de soutien des parents et amis.
À qui c'est qu'il monte ce comité?
Ce comité était piloté par Armand Bastide, qui était la pièce maîtresse de ce comité-là. Mmh. Armand Bastide. Et puis, et le soir, tous les soirs, on était à un meeting quelque part. Max Gano était un animateur, un grand animateur de ces meetings-là. Et on se réunissait chaque soir, avant d'aller ailleurs, on faisait un point sur le marché de Bergevin. Et on chantait, on avait mis au point une sorte d'hymne national que.
Hein,
c'était Le vrai, nous t'es dans l'esclavage. Si chel chel libéré nous savons aujourd'hui c'est couillonnade, faut nous sacrifier vie. Voilà, c'est ça. Tu as dit face au tyran, face au fusil. Voilà. Et donc, chaque soir, après les meetings, nous étions arrivés à Bergevin pour faire un point global et pour projeter la semaine d'après. Voilà. L'objectif de ce comité, c'était de mobiliser. La population, mais aussi trouver les moyens pour répondre à toutes les charges qui allaient être supportées dans le cadre des différents procès qui avaient lieu, parce qu'il y avait eu deux procès. Il y a les procès de ceux qui se sont passés par la cour d'appel d'État, c'est-à-dire la Pierre Saint-On, Rupert, enfin, c'était 16 ou 18, hein, Marcouc, voilà. Et puis aussi, il y avait le procès local. Qui était poussé sur place. Et voilà. Et ces personnes qui avaient été arrêtées s'étaient battues pour avoir un statut de prisonnier politique. Et donc, j'étais au départ dispersé un petit peu dans les deux prisons, mais enfin, ils n'avaient pas de statut particulier. Et finalement, ils ont pu avoir un statut de prisonnier politique. Ils avaient été tous mis ensemble, d'ailleurs, quasiment ensemble, à Saint-Hyacinthe, à Saint-Claude.
Tous les prisonniers, quels qu'ils soient, étaient réellement politiques ou non.
Les prisonniers dits politiques. Ceux qui avaient, en tout cas, qui passaient pour des animateurs des manifestations, et, voilà, ou soupçonnés comme tels. D'accord. Et donc, je me souviens que nous allions donc avec la famille, mon père surtout, chaque dimanche, voir des prisonniers politiques, des Jean-Claude Courbin, des Glas, etc. À Saint-Hyacinthe. Et donc, ça fait partie des moments historiques et des moments qui de prise de conscience de tout un chacun, parce que je vois que les gens qui avaient mon âge à l'époque ne pouvaient pas rester indifférents à ce qui se passait. Et les gens qui étaient, les amis qui étaient dans la périphérie, par l'engagement qui était le nôtre, c'est presque de ma famille autour de ça, forcément, essayer de trouver leur place dans ce mouvement-là, et c'est vrai que ça a été un grand mouvement populaire jusqu'au procès de Golpe.
Ton père est un militant ?
Mon père n'a pas été un militant, mais il comprenait notre position de militant. Et pratiquement, lorsqu'on avait besoin d'un accompagnement matériel, il était là. Il était dans une voiture, l'agent, il a toujours été là. Et même pour les camarades qui étaient dits dans la clandestinité, nous avons eu à, il a eu à accompagner, à ravitailler, à sa manière, pour démanger. Voilà. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qui se passent.
Est-ce que la population adhérait à vos discours quand vous passez quelque chose,
la population adhérait au discours. Peut-être pas dans sa totalité, mais comprenait que ce mouvement-là puisse exister. Et quand on passait dans les communes, c'était pas forcément visible, mais quand on revenait à Bergevin, le soir, on trouvait des gens là, en train d'attendre le retour de l'équipe qui était partie en conférence. Et ça, c'était un moment extraordinaire. Voilà. Tenez tambour, un petit peu. Oui, tenez tambour, tout ça. Mais il y avait surtout ce qu'on appelait à l'époque. Quand il y a un bougalou en nous là, je ne sais pas jamais comment vous quoi, mais quand il y a un bougalou en nous là, c'est l'hymne qu'on chantait là.
Le
pas
de
non, de la chante pas d'un tambour, sans tambour forcément.
Et vous n'avez plus réuni la somme nécessaire ?
Pour les. Je ne sais pas ce que ça a donné en termes de volume financier, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné. Beaucoup. On a fait des souscriptions, on avait des souscriptions sérieuses, des gens de Pointe-à-Pitre, des notables de Pointe-à-Pitre, des gens qui. Parce que chacun s'est senti concerné dans cette affaire-là, en se disant que si ça se renouvelle, on peut avoir un enfant. Vous savez. Comment ça s'appelle ? M. Jazor qui a eu. Qui était. Qui n'était pas forcément militant, même si c'était un grand monsieur dans cette époque-là, par les dons qu'il a pu faire, par l'accompagnement qu'il a apporté, ce fils aussi qui était là-dedans, etc. Ouais. Voilà hein, ce que je peux dire globalement de tout cela. En tout cas, cette période-là fait partie des périodes riches de la Guadeloupe, et je salue l'initiative que vous avez prise de faire ça, parce qu'il faut la faire connaître. Il faut la faire connaître, c'est une belle page d'histoire et qui a été un petit peu le. Qui s'inscrivait aussi dans une mouvance internationale. Hein. C'était 62, c'était Cuba, etc. C'est le grand mouvement de dépendance à la fois dans le Caraïbe et des pays d'Afrique. Et donc, forcément, la Guadeloupe n'a pas été insensible à ça. Et nos jeunes de l'époque, nos aînés de l'époque, étaient sur cette base de libération. Alors, peut-être qu'on trouvait que c'était un peu utopiste. Non, mais je crois qu'on a une raison de s'inscrire là-dedans, même si les faits aujourd'hui nous en éloignent. Hein. Mais on a une raison de s'inscrire absolument dans cette situation-là.